Oui, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans la présence de notre Dieu autour de cette table ce soir. Comme Papa José est dans la joie, je veux demander à notre sœur Claudine de remettre ce temps entre les mains du Seigneur. C'est exactement aujourd'hui 12 ans depuis que Papa José est paralysé. Vous pouvez prier ce début de cette réunion et rendre grâce à Dieu. C'est douloureux, mais quand un frère a dans la joie d'accepter que le Seigneur se souvienne de lui, prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toutes les actions de grâce et te témoignons toute notre reconnaissance parce que ta parole nous dit, Seigneur, que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, en rentrant en connexion, je trouvais que toute ma famille était en joie, en éclatant de rire, Seigneur éternel. Et c'est là, en train de commémorer le 12e anniversaire du malheur au départ qui avait frappé ton fils, qu'aujourd'hui devient un sujet de joie, un sujet de louange. Car ta parole nous dit que nous devons te louer en toutes choses, car c'est cela la volonté de Dieu en nous et pour nous en Jésus-Christ. C'est pour cela, Père, nous te disons un grand merci, car pendant 12 ans, tu l'as gardé, Seigneur éternel, et voilà qu'aujourd'hui, Seigneur éternel, nous pouvons ensemble partager la joie avec lui. Et aussi, Seigneur, nous tenir autour de toi pour t'écouter, pour recevoir instruction, Seigneur. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'éternel. Béni sois-tu pour cette table qui est déjà dressée. C'est pour cela que nous voulons nous recommander à toi, pour que ton Esprit Saint, seul, Seigneur, nous conduise, nous inspire, nous dirige et qu'il nous donne vraiment à comprendre la profondeur de cette parole. Bénis chaque maison qui est connectée et souviens-toi de ceux-là qui sont à la radio et ceux-là qui ne seront pas du tout connectés, Père, que tu puisses te manifester dans leur vie autant que tu le feras pour nous. À toi, c'est la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Nous te laissons la place, cher Saint-Esprit, pour que tu sois le maître de cette cérémonie et agis dans nos vies. C'est dans le nom le plus élevé de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Claudine, pour la prière. Oui, nous sommes dans la joie, nous sommes partagés le cœur. Dans la joie, et nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre frère. Il a permis que son serviteur soit paralysé aujourd'hui, il y a 12 ans. Seigneur, que ton nom soit loué et tu as entendu les cris de son cœur. Nous tous nous disons, qu'est-ce qui peut nous arriver sans que tu aies permis? Mais dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons méditer la parole dans les livres, l'Évangile de Marc, chapitre 9. Nous allons commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 15. Bienvenue à notre sœur Christine d'Angleterre qui vient de nous rejoindre. Nous sommes, on n'a pas encore commencé, disons, la lecture. Mais nous allons entendre la lecture par notre pasteur Célestin qui est à côté de moi. Il va nous lire Marc 9 à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. À vous.
Oui, merci pour la parole. C'est la transfiguration que nous allons lire. Je vais utiliser la version seconde révisée. Marc 9, du verset 2 jusqu'au verset 13e. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seul à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blancheur sur cette terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. sont trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient que dire car le froid les avait saisis. Une nuée vint les envelopper et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent alentour. Ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne pas raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant avec eux. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Et je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. C'était là la parole du Seigneur.
Merci, Pasteur Serré, pour la lecture. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie. Nous avons entendu la lecture. Si je dois nous rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné hier. Hier, nous avons vu comment Jésus qui allait et toujours en mouvement, il n'est pas en repos, notre Seigneur, et en chemin vers Césarée, il a le village de Césarée, il a demandé à ses disciples, quelle est l'opinion des gens à propos de moi? Beaucoup, et la réponse, certains disent Jean-Baptiste et les autres prophètes, et il demanda au fait aux disciples, et vous, qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous en dites de moi? Et il va répondre, c'est Pierre qui va répondre, tu es le Christ. Bien-aimé, je crois qu'on a eu l'interpellation. Si le Seigneur a posé la question, c'est qu'il pourra aussi, si nous étions là, nous poser, qu'est-ce que toi, Christine, d'Angleterre, tu en dis de moi? Claudine, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que toi, tu dis? José ou Célestin ou Christine? Donc, papa Paul Bonny qui nous écoute, il peut nous poser cette question. C'est à nous de répondre. Qui est le Seigneur pour nous? Peut-être la bonne réponse sera ce que et notre frère Pierre avait répondu, tu es le Christ. Et là, il recommanda sévèrement, il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas annoncer. Et nous voyons après ça, le Seigneur directement passe à parler de sa souffrance, de ce qui va lui arriver. Et moi, personnellement, vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal. Et ça m'a fait du bien que j'ai un Dieu aussi très puissant qui sait prédire, dit ce qui va lui arriver. Et ces choses se sont arrivées exactement comme il le disait. Donc, il était à 100% Dieu, 100% l'homme. Et il va souffrir cette souffrance. C'est à cause de moi et toi. Donc, il a souffert. Et quand nous voyons plus l'œuvre, bien-aimé, nous voyons comment est-ce que Pierre va essayer de reprendre le Seigneur. Le Seigneur va lui dire, arrière de moi, Satan. Pour dire que, bien-aimé, si on ne fait pas attention, quel que soit le niveau, on peut penser qu'on est spirituel, mais on peut être utilisé par l'ennemi qui voulait dire non, reste dedans. Il faut pas, ça va pas arriver pour calmer. Non, il y avait un chemin tracé du Seigneur. Donc, personne ne pouvait venir apprendre, dire autre chose. Alors, il va dire arrière de moi. Donc, faisons attention, bien-aimés, de ne pas être utilisé par l'ennemi. Et quand nous voyons, je ne peux pas ici énumérer tout ce qu'on a vu. Vraiment, il y avait des leçons profondes qu'on a eues hier. Et aujourd'hui, c'est au suite de ce que je peux dire, c'est la transfiguration. Quelque chose de formidable, resplendissante, vraiment qui réjouit mon cœur. Notre Seigneur s'est transformé, il a appelé. Moi, bien-aimé, Quand nous allons voir, il n'était pas parti avec tous les disciples. Il a pris seulement Pierre, Jacques et Jean. Et nous allons voir ensemble pourquoi ce choix des trois. Ce n'est pas, la Bible ne nous dit pas clairement, mais nous pouvons voir. Et qu'est-ce qu'il y a eu exactement à la transfiguration? Donc, nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous éclairer. Nous avons fait la lecture et il va nous parler. Nous allons voir comment est-ce que notre Dieu est vraiment un Seigneur, un Dieu formidable. On décrit comment est-ce qu'il y a... pas un homme qui peut faire ce qu'il a fait, se transfigurer devant les disciples. Bien-aimé, j'aimerais que, quand nous allons prendre la parole, pendant que nous partageons, nous pouvons réfléchir et répondre à ces questions qu'on nous a données ici, bien-aimé, question 1, 2 et 7. Et je vais lire question 1. De quoi ou de qui parle ce verset? Question 2. Et ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, bien-aimés, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Maman Charlotte, bienvenue devant la présence de notre Dieu. Nous avons lu l'Évangile selon Marc, chapitre 9, nous avons commencé à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. Alors, bien-aimés, les instructions sont jusque-là, la technique nous sourit. Il n'y a que la sœur Claudine qui est amite, et les autres, nous ne sommes pas amites, donc nous pouvons parler. Si moi, je ne vois pas la main, et si ça continue comme ça, ce sera formidable. Nous allons passer une réunion où nous sommes tous... d'où nous pouvons parler, il n'y a personne qui a mis sauf la sœur Claudine, elle sait pourquoi je l'ai mis. Donc, bien aimé, déjà là, je vois la main de Papa José des États-Unis. Papa, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, maman, pour la parole. Et je loue aussi le Seigneur parce que tu as, dans ton introduction, posé la question pourquoi Jésus a-t-il pris seulement trois, Pierre, Jacques et Jean. Bien-aimé, quand nous avons lu hier, on devait arriver au premier verset du chapitre 9. Pour cette raison qu'on a commencé au verset 2. On devait arriver au verset 1. Mais quand on voit la logique, le verset 1 est bien pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au verset 36, à la fin, vers la fin, Jésus, notre Seigneur, a dit ceci, celui qui aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il ajoute au premier verset du chapitre 9 que nous n'avons pas lu ce matin, ce soir, cet après-midi, Jésus leur dit encore, je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront pas, ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Quelques-uns qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Et au verset 2, nous avons les trois là-bas qui sont devant nous, Pierre, Jacques et Jean. le verset premier du chapitre 9 est très important parce que c'est un verset qui annonce l'événement que nous avons lu, que nous verrons. Quelques-uns parmi vous sont là, ne mourront pas avant d'avoir vu. Ils ne mourront pas. Et ces quelques-uns, le Seigneur prend le droit. Mais ce que je veux dire ici, c'est que notre Seigneur, il ne disait pas des choses pour plaire aux gens. Tout ce qu'il disait, c'est un programme qu'il suivait. Tout était déjà calculé. Il a dit que parmi vous, vous qui êtes là, quelques-uns ne mourront pas. Et au verset 2, il prend parmi le peuple qui était là, trois. Et ce sont les trois qui verront ce que nous avons lu. Je ne dis pas, la suite nous dira. Donc, nous avons un sauveur, un Seigneur qui est Dieu et qui dit la chose et la chose est accomplie. Nous devons lui faire confiance. Merci.
Merci, Pasteur José, pour votre intervention. Nous avons un Seigneur qui est puissant et qui dit les choses et les choses arrivent. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voulons accueillir notre sœur Rose qui vient d'arriver. Ma sœur, nous sommes dans le livre de Marc, disons, l'Évangile selon Marc, chapitre 9, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13.
Oui, oui, c'est fini.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Oui, bien-aimés, nous sommes là, nous continuons. Je donne la parole au pasteur Céline.
Merci. Maman Christine, pour la parole, je suis au verset 2. Le verset 2 nous montre, après avoir parlé aux disciples, après cette confession de Pierre, après tout l'enseignement, 6 jours après, il va prendre Pierre, Jacques et Jean. La question de savoir pourquoi il ne prend pas les 12, il prend seulement les 3. Pas qu'il n'y a que lui qui connaît, mais il nous montre aussi comment, quand nous formons des disciples, comment nous devons nous comporter. Rappelons-nous comment 2 Timothée 2:2, Paul disait à Timothée que ce que tu as appris de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Donc, dans la formation des disciples, il y a un grand groupe, mais dans le grand groupe, on sait prendre quelques têtes qu'on peut sélectionner au bout des doigts pour certaines tâches bien spécialisées. Et là, le Seigneur est en train de nous apprendre qu'il y a bien sûr le groupe des 12. À un certain moment, il a envoyé le 70. Et puis, il s'est investi à former les 12. Mais à un certain moment, il laisse les 12. Il prend le 3. Et c'est très, très significatif dans le sens que les 3, c'est le groupe le plus proche, plus intime. Les 12 sont ses disciples. Les 70, suivant les versions, ce sont ses disciples. Donc, pour dire, ça doit nous enseigner, nous qui sommes impliqués dans la formation des disciples, nous devons avoir les petits groupes restreints. Nous devons avoir le grand groupe et nous devons avoir la foule.
C'est ça.
Et ça, c'est significatif aussi. Ça m'enseigne dans la gestion des âmes, dans la formation. Amen.
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 Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour l'intervention. Il n'y a que Dieu seul dans sa souveraineté, Jésus, qui connaît pourquoi il a pris seulement ces trois et pas tout le monde. Et c'est aussi pour nous un exemple à suivre, de prendre, quand nous formons des disciples, de prendre quelques-uns que nous trouvons qui sont capables de transmettre l'enseignement aux autres, d'enseigner aux autres, capables, qui ont la foi, évidemment. Je crois que Dieu lui-même, s'il pouvait nous dire, il allait nous donner des critères. Et quand nous pouvons voir ces trois disciples-là, surtout Pierre, nous savons qu'est-ce qui s'est passé dans les ministères. Donc le Seigneur sait choisir. Ça, c'est un très bon exemple à suivre. Oui, bien-aimé, il n'y a toujours pas de mais. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes au verset 4. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive? D'abord, nous pouvons dire, nous pouvons parler avant des 4. Qui peut nous prendre le verset 3 pour nous parler de la transfiguration? Oui, je vois la main de Papa José. Papa José, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Oui, merci maman. Au verset 3, il y a le changement de ce vêtement. Ces vêtements devinrent d'un blanc si brillant que personne sur toute la terre ne pourrait les blanchir à ce point. Et un peu plus haut, au verset 2, à la fin, il changea d'aspect devant leurs yeux. Donc, le Seigneur, ici, on peut dire qu'il est dans un autre monde.
Amen.
Oui, il est dans un autre monde où il doit changer l'aspect. Ses vêtements étaient très blancs. Et la Bible dit que sur la terre, toute la terre, personne ne pourrait les blanchir à ce point.
Amen.
Ce sont les habits d'un autre monde. Et notre Seigneur, il est celui-là. Il est celui-là qui, selon ce qu'il a dit au verset premier ici, ne mourons pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Bien sûr, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, mais c'était différent.
Amen.
C'était différent parce que sa parole s'accomplit ici. Il a changé ses habits aussi. C'est pour dire que notre Seigneur, il est vraiment Dieu.
Amen.
Peut parler de la divinité de Jésus, notre Seigneur, seulement avec la transfiguration. Oui, parce qu'aucun homme, quand la Bible dit, sur toute la terre, personne n'est blanchi comme nous, ils ont vu. C'est que c'est ailleurs.
Amen.
C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Donc, oui, bien-aimés, nous avons un Dieu et continuons toujours à l'aimer, à le servir. Nous verrons même plus que ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu. Nous verrons.
Amen, amen. Merci, Papa José, nous verrons. Oui, j'ai pour les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre, bienvenue devant la présence de notre Dieu. Nous sommes là, disons, l'évangile selon Marc, chapitre 9, verset 2 jusqu'au verset 13. Oui, merci papa pour l'intervention. En tout cas, moi, je peux confirmer ce que papa dit là. Personnellement, le Seigneur m'a fait grâce. Je crois que là, nous vivons une blancheur, comme on dit là, qu'on n'a jamais vue. À chaque fois que je lis ce texte, je me rappelle que je crois que c'est une réalité. Et à 2006, quand le Seigneur a récupéré notre fille de 20 ans, Rachel, Et à chaque fois que j'approchais de son cercueil, bien aimé, je n'ai jamais vu cette blancheur que je voyais, son visage et les habits. Et dès que je m'approchais du cercueil, au lieu de la tristesse, c'est la joie, une joie là. Depuis là, je n'ai jamais senti cette joie là. Chaque fois que je m'approchais, au lieu que les larmes, je faisais couler de loin. Quand je m'approchais, c'est la louange qui montait du fond de mon corps. Et quand je regardais les éclats qui étaient sur son visage, sur la vie, bien aimé mon cœur dans la joie. Je crois que là-bas, dans le royaume, il y a une blancheur là, et il y a une joie. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Quand Paul, plus tard, Pierre va dire, faisons une tente. Je crois qu'ils étaient tellement dans la joie. Une joie terrible. Je crois que ce que papa dit est réel. Je voulais un peu vous flasher. Je voulais garder ça, mais je sentais qu'il faut vraiment dire. Donc, je crois que là-bas, il y a une blancheur, il y a une joie énorme, inonde, qui inonde. Et donc... Et j'en ai vécu un clin d'œil, donc à chaque fois que je m'approchais des cercueils, je ne pouvais pas pleurer. J'avais une joie, la louange sortait, une blancheur, je voyais du visage des habits, je n'ai jamais vu ça. Et chaque fois, quand je me retirais de sa présence, je venais dire à mon mari, regarde ce que j'ai senti, à chaque fois que je m'approchais. Donc je crois que là-bas, nous verrons de grandes, plus grandes choses. Là-bas, c'est blanc et c'est magnifique. Amen.
Amen. Merci.
Merci, papa, pour l'intervention. Nous donnons la parole à notre sœur Christine d'Angleterre.
Oui, merci vraiment pour la parole. Je suis aussi dans la joie de voir que le Seigneur avait dit que le royaume qu'ils allaient voir venait avec une puissance. Bien aimé, le fait que ses habits soient transformés, que son visage soit transformé, il n'y a qu'une puissance qui peut transformer ça. Et quelle est cette puissance? C'est la puissance divine qui peut faire cela, bien-aimé. Et j'enchaîne avec le verset 4 et puis peut-être 5 pour voir que c'est à ce moment-là que Élie et Moïse, qui étaient morts depuis des années, qui viennent d'apparaître. C'est pour montrer, comme les bien-aimés venaient de le dire, que le Seigneur n'était plus dans ce monde ici, ce monde physique ici. Il était dans un autre monde. C'est pourquoi tout avait changé. Et c'est une gloire vraiment, bien-aimé. C'est une grâce. Que ces trois bien-aimés puissent voir cela. Et je me rappelle encore, moi aussi, si j'étais là, j'allais dire la même chose comme Pierre, qu'on puisse rester. Parce que quand il disait qu'on construit des tentes, c'était pour que ces gens-là restent, que le Seigneur reste avec Moïse et Élie, et que cette gloire-là reste avec eux. Bien-aimés, je crois, quand je parle même avec les gens, quand je parle de la gloire à venir que nous lisons dans la parole, je leur dis, ah, bien-aimés, lorsque nous serons dans la gloire, je vais chercher Paul, je vais chercher Pierre, je vais chercher celui-ci et celui-là, je vais chercher le Seigneur, je vais leur poser des questions. Les gens rient toujours, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas vraiment cette grâce d'être dans cette gloire. Donc, ce que je tire ici comme une leçon est que quand la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie bien-aimée, nous sommes vraiment dans la joie. Nous ne pouvons plus pleurer, nous ne pouvons plus nous attrister. Vraiment, ça va nous amener beaucoup de joie et beaucoup de consolation. Merci, bien-aimé.
Amen. Merci beaucoup. Amen. Beaucoup de joie et de consolation. C'est vrai, quand on voit des choses comme ça, on peut vraiment, quand nous pensons à notre cité céleste, il y a la joie. Donc nous ne perdons pas le temps, bien-aimés, en venant chaque soir. Ça peut nous inspirer comment les choses sont là-bas, même si nous ne comprenons pas totalement. Mais ça sera formidable. Et le verset 4, il y a la présence d'Élie et Moïse. Tu peux nous parler un peu? Comment le Saint-Esprit nous donne l'éclaircissement là-dedans? Quand nous voyons Élie était enlevé, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Moïse, même qui a vu Moïse, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré ou quoi? Et dans cette resplendissante situation, disons, reflet, on voit Élie et Moïse. Donc, pour dire que réellement, et ils sont, donc quand nous servons Dieu, moi, pour moi, ça me convainc que vraiment, quand on parle de l'éternité, c'est une réalité. Donc, nous devons être sûrs, nous devons savoir, bien aimé, que nous ne perdons pas le temps chaque soir. Que Dieu nous soutienne, qui nous donne la force de rester attachés à lui, et nous allons voir la gloire qui est à ceux qui ont servi Dieu, n'ont pas perdu le temps, nous aussi, nous ne perdons pas le temps. Amen.
Amen.
Mm-hmm. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de mais. Pourtant, nous sommes très nombreux aujourd'hui. Rare le vendredi qu'on est comme ça. Tu peux nous prendre le verset 5? C'est vrai que Maman Christine en a amorcé un tout petit peu en parlant. Restons ici, dressons la tente. Pourquoi? Parce qu'il y avait la joie. Nous donnons la parole à notre sœur Charlotte. Ma sœur Charlotte, à vous, s'il vous plaît. La parole.
Ma sœur. Mais moi, en fait, c'est un éclaircissement que je voudrais avoir par rapport à Pierre quand il dit au cinquième verset, Pierre dit à Jésus, quand Élie et Moïse leur a apparu, et lui dit à Jésus, donc, de faire, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et je me pose cette question, je dis, mais, et pour lui, Pierre, Jean et Jacques, n'a pas pensé, c'est ça que je voudrais que le pasteur m'éclaircisse un peu, pourquoi lui n'a pas parlé pour lui, la tante est pour lui, Jean et Jacques et Jean. Il a parlé seulement la tante est pour Jésus, Élie et Moïse.
Amen. Donc, merci ma sœur pour la question. Je suis en train de rire parce que quand je méditais personnellement, je me disais, bon, il a pensé aux trois qu'il a vus, mais pourquoi pas lui et le Pierre, voilà. Et, disons, et Jacques et Jean. Bon, mais après, personnellement, je me disais, mais comme lui était toujours avec Jésus, peut-être il a dit que lui n'a pas besoin de tante parce qu'il est avec Jésus, donc la même tante que Jésus va avoir, lui aussi sera là. C'est ce que j'ai pensé. Oui, je ne sais pas les autres, peut-être Dieu peut nous inspirer autrement, mais j'avais vraiment ri, j'ai dit, oh, mais il ne pense pas à lui. Et puis je me suis rappelé, non, mais lui était avec Jésus, donc il devrait rester dans la tente de Jésus.
Donc,
oui, tellement. Mais je me disais la motivation, pourquoi il veut une tente? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement que c'était beau, c'était une joie, bien aimé, une joie immense. La Bible ne le dit pas, mais je me dis dans la présence de Dieu, sûrement que tout est comblé et vous sentez une satisfaction totale que vous avez envie de rester là-bas. Vous ne pensez même plus à autre chose. Mais ce n'est pas l'objectif puisque le Seigneur n'a pas dit oui. Amen.
Amen.
Amen. Que vous voulez, c'est malheur monté. Bon, je ne sais pas, je vais donner la parole à Papa José. Papa, soit vous répondez ou vous continuez à la méditation. Nous avons encore beaucoup de versets, s'il vous plaît.
Oui, je reviens au cinquième, là où Pierre a dit au Seigneur que si c'est possible, non, il est bon, il a trouvé ça bon, que nous soyons ici. Et puis vient la question de tente. Oui, bien-aimé, Pierre, il a vu son Seigneur avec cet éclat-là, les habits ont changé. Et quand nous voyons le verset qui suit, on nous dit, il ne savait pas que dire, car ses deux compagnons et lui-même étaient très effrayés. Oui. Certes, ils étaient dans la joie, mais c'était surtout la peur. C'était surtout la peur. Parler de rester là-bas, parce que il trouve cet endroit avec le Seigneur dans cet état. Vraiment, c'est bien. Ce n'est pas la peine de rentrer. Nous restons ici. Il y a la joie là-bas. Mais en même temps, il y avait un autre sentiment qui était en eux. C'était la peur. Ils étaient effrayés. Alors, en parlant de trois tentes. Nous pensons que les tentes ici, pourquoi pas parler des tentes pour les trois, pour eux, et seulement pour le grand, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Il a vu que le Seigneur, il est Seigneur, et ces deux hommes-là, ce sont des grands prophètes, l'homme de la loi, Moïse, qui sont là. Alors, on doit construire les tentes pour eux. Oui. Que ces trois personnes restent, et pour que nous restions ici. S'il y a des tentes, ils vont rester là-bas. On voit bien Paul et Pierre qui oublient même sa femme, parce qu'on n'a jamais parlé de sa femme pendant le ministère du Seigneur, mais la femme est là. Parlons de ses amis qui sont restés, le neuf. Non, il les a oubliés. Il dit, ah non, je reste ici avec le Seigneur et ces deux hommes-là, nous restons là, nous qui sommes venus. Alors, cela, c'est pour montrer que les trois tentes, c'est pour les garder. C'est-à-dire que ces trois hommes, les deux anciens plus le Seigneur, qu'il y reste, et nous, Pierre et Jacques et Jean, nous restons avec eux. Ils oublient les autres. Et pourtant, la voix qui viendra nous dira quelque chose. Et dans cette voix, il y aura une correction qui viendra parce que lui a parlé de trois tentes. C'est comme s'il comparait Jésus de deux et que les deux sont pareils avec Jésus comme trois, faisant trois tentes. Et la voix va corriger cela. Pas trois tentes. En un mot, j'ai dit que l'apôtre Pierre était dans la joie. En même temps, ils avaient peur, selon le verset 6. Et s'il a parlé de trois tentes pour eux trois, parce que ce sont des personnes importantes, mais eux-mêmes, ça ne fait rien. Donc, c'est arrivé comme ça. Les tentes, c'est pour les grands. Nous autres, nous pouvons rester. Mais l'essentiel est que l'Église est là au lieu de rentrer. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci.
Merci, pasteur, pour votre intervention. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais nous essayons de répondre, que le Saint-Esprit continue à nous parler dans notre cœur, quand on nous explique, parce que la Bible Miwe ne nous dit pas pourquoi il a dit ceci, cela. Nous essayons de voir, disons, par la grâce de Dieu. Le verset 7, il n'y a pas de « mais », on dit « mais ». Il faut souligner qu'il y avait vraiment les foi et il voulait à tout prix rester à côté du Seigneur. Le verset 7, c'est « Une nuée vint le couvrir, et de la nuée sortit une voix, celle-ci est mon bien-aimé, écoutez-le. » Bien-aimé, ce verset, et nous pouvons dire, c'est l'idée principale de cette transfiguration, c'est pour que Dieu parle. Il les a mis à côté en tant que Dieu, il savait. L'objectif, c'est que cette parole sorte pour dire, écoutez-le, il est mon fils bien-aimé. Voilà le message, la clé de ces transfigurations. C'est vrai, nous avons vu la blancheur combien, mais Dieu avait préparé pour parler à ses disciples. Ce sont des témoins qui ont entendu, des témoins oculaires, ont entendu de leurs propres oreilles. Et celui-ci, Jésus, est le Fils de Dieu. Bien-aimé, pour moi, c'est une interpellation. Oui, devant tout ce que nous lisons, méditation chaque soir, est-ce que nous écoutons le bien-aimé, le Seigneur Jésus, ou nous venons, nous rentrons sans vraiment écouter. Quand on dit écouter, c'est vraiment pratiquer, accepter ce qu'il nous dit. Merci beaucoup. Nous donnons la parole au pasteur Séné, à vous, s'il vous plaît.
Oui, merci, maman Christine, pour la parole. Moi, je reviens au verset 5 encore. Les trois frères, Pierre, Jacques et Jean, ont fait une expérience que les autres, ces trois disciples ont fait une expérience que les autres qui sont restés n'ont pas faite. Une grande expérience avec le Seigneur, la transfiguration sur la montagne. Et ce qui leur arrive en tête, restons carrément ici et bénéficions de cette expérience qui est une expérience formidable. La leçon que je tire, c'est que des fois le Seigneur permet que nous fassions dans notre intimité avec lui beaucoup, beaucoup d'expériences. Ça peut être une expérience personnelle, ça peut être une expérience communautaire, mais le Seigneur voudrait voir l'après cela. L'après cela, est-ce que nous devons être égoïstes, rester dans cette expérience pour nous-mêmes, l'expérience, quand nous la traversons, nous la connaissons, c'est toujours pour le royaume des cieux. C'est toujours pour l'avancement du royaume des cieux. Et pour Pierre, il fallait carrément rester dans cette expérience éternellement. Et c'est pas ça que le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur va leur dire, c'est pas ça que j'ai voulu que vous ayez cette expérience. Ce n'est pas pour qu'on reste dans cette expérience éternellement. C'est pour que nous puissions aller de l'avant, c'est pour que nous puissions bouger, aller faire autre chose. Et cette expérience va aider pour l'avancement du royaume. Aujourd'hui, nous sommes en train de méditer sur cette expérience, tout simplement parce qu'ils ne sont pas restés en train de construire les tentes pour eux-mêmes et pour voir Moïse et Élie. Ils sont descendus de là. Donc, tout ce que le Seigneur permet que nous puissions expérimenter. Bientôt, nous allons avoir un camp biblique avec une intensité très forte de la présence de Dieu, des enfants de Dieu ensemble. Mais l'après, nous devons voir l'après. L'après, c'est que c'est pour que le royaume des cieux progresse dans notre propre vie, mais aussi que nous puissions faire l'expansion du royaume des cieux dans les vies des autres. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Séné, pour la parole. C'est vrai, c'est très important de voir après l'expérience qu'est-ce qu'il faut faire. Merci, Seigneur. Donne-nous la force de faire l'obéissance. Bien-aimé, que nous sommes au verset 8. Qui peut nous prendre le verset 8? Qu'est-ce qui arrive après ces transfigurations? Après, qu'est-ce qu'il voit? Après la voix? Qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Je ne veux pas parler, c'est seul, ce n'est pas une prédication. Nous voyons verset 8, il n'y a pas de mais toujours. Jésus est resté seul avec eux, comme ils étaient montés. Donc, et qu'est-ce que Jésus leur a donné comme ordre? Nous allons donner la parole à papa José, s'il vous plaît. Papa, vous avez la parole, s'il vous plaît.
J'aimerais tout simplement dire un mot sur le dernier verset, sur la dernière phrase du verset 8. Jésus seul était avec eux. Jésus seul. Élie n'est pas là, Moïse n'est pas là, Jésus seul. Et Jésus seul dans notre vie, c'est ce que la parole nous demande. Nous pouvons avoir tel ou tel serviteur ou servante de Dieu ou un personnage important qui fait des choses extraordinaires, mais Jésus seul.
Amen.
Jésus seul dans notre vie. Cela est une bonne chose. C'est ce que nous dit. Nous écoutons son bien-aimé fils, lui seul. Notre voix, mais la voix du Seigneur seul. Merci.
Merci, papa, de souligner Jésus seul dans notre vie. Nous allons nous poser la question. Moi qui marche avec le Seigneur, je connais je vois la bonté de Dieu, je connais la puissance de Dieu, je vois. Peut-être j'ai vécu telle expérience où le Seigneur s'est manifesté dans sa puissance. Mais la finalité des choses, c'est quoi? Jésus veut rester seul, régner, maître absolu de notre vie et au centre de notre vie. Amen.
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 Bienvenue à notre sœur Karine. Nous sommes à l'Évangile selon Marc, ma sœur Karine, chapitre 9, à partir de verset 2 jusqu'au verset 13. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons encore beaucoup de versets, tellement le texte est riche. Nous donnons la parole à notre sœur Christine d'Angleterre. À vous, ma sœur, s'il vous plaît.
Merci, bien-aimée, pour la parole. Je prends 9 et 10. Et c'est le mot ressuscité qui m'a beaucoup touché. Je vois là, comme d'habitude, le Seigneur, chaque fois qu'il opérait un miracle, il leur disait toujours de ne pas dire, de ne dire à personne. Je vois ici, après tout ce qu'il venait de voir, le Seigneur leur recommande de ne dire rien à personne. Et il leur dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Et au verset 10, on nous dit qu'ils avaient retenu la parole, c'est vrai, ils avaient gardé le secret, ils n'avaient pas divulgué cela. Mais néanmoins, ils se posaient toujours la question, ressusciter c'est quoi? Donc ressusciter c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie, parce que personne n'avait été ressuscité avant que le Seigneur vienne et qu'il ressuscite les gens tels que Lazare. Alors je vois ici, ce que je retiens comme leçon est que deux fois bien-aimé, il y a certaines choses qui sont dans la parole, que nous ne pouvons pas comprendre. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut venir nous faire comprendre ces choses-là. Donc, s'il arrive que nous lisons la parole de Dieu ou bien nous la partageons et qu'on n'arrive pas à comprendre quelque chose, si on ne peut pas poser la question à l'Assemblée, bien-aimée, mettons-nous à prier, le Saint-Esprit de Dieu va nous éclairer, nous allons comprendre, au lieu de tordre la parole, au lieu d'interpréter à notre manière, à la manière des hommes, remettons-nous entre les mains du Seigneur que son Esprit nous éclaire. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci.
Amen. Merci, ma sœur, pour votre intervention. Et quand bien même nous comprenons, l'Esprit nous éclaire, ce n'est pas tout que nous allons connaître. Il y a d'autres choses où nous allons connaître. Nous, la révélation, c'est en partie. D'autres choses, nous allons mieux comprendre quand nous les verrons face à face. Amen. Donc, pour dire que nous pouvons marcher avec le Seigneur, mais soyons sûrs, comme c'est la parole de Dieu, il y a certaines zones qui seront obscures. Ici, il demande, qu'est-ce que c'est ressuscité de mort? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous progressons. Nous sommes, si on a quelque chose à dire sur 10 ou 9, mais si l'idée a déjà été avancée, ça ne sert à rien de changer de mot, mais que nous progressions vraiment avec la deuxième partie, que je peux appeler deuxième partie, parce que là, il y a autre chose encore qui commence, qui vont discuter. Oui, je donne la parole au pasteur Célé qui a quelque chose à ajouter sur 9 et 10.
Oui, merci pour la parole, maman Anne-Christine. Le verset 9 et 10, l'expérience sur la montagne est terminée, ils sont en train de descendre. Et quand ils sont en train de descendre, Jésus va dire aux siens, ceux qui étaient partis avec lui, de ne pas en parler jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Donc, c'est vraiment contradictoire parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, nous voulons toujours avoir de la gloire. Un tel événement, ça allait être un événement à la une pour publier et voir, vous n'avez encore rien vu. Les trois qui étaient partis pouvait vraiment dire, crier, nous avons ce que nous avons vu, le monde entier n'a jamais vu ça. Ça allait être un événement à publier dans les journaux. Les journaux peut-être n'existaient pas, dans la télévision n'existait pas. Voilà la gloire, comment les hommes aujourd'hui ont besoin de la gloire. Mais le Seigneur n'avait pas besoin de la gloire. Quel bel exemple à suivre. C'est que le Seigneur nous enseigne, au lieu que nous puissions rechercher notre gloire, c'est la gloire de Dieu que nous devons rechercher. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la gloire de Dieu. Si nous voulons qu'un événement que nous sommes en train de faire soit connu, ou même ce que nous faisons dans le ministère personnel soit connu, nous devons présenter le Seigneur devant, au lieu que nous, nous puissions nous présenter devant.
Amen.
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 Amen. Merci, Pasteur. C'est les cherchons toujours la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous donnons la parole à notre sœur Rose, peut-être, oui, ma soeur, vous serez la dernière intervenante pour ce soir, s'il vous plaît.
Moi, merci, ma Christine. Bon, dans le verset 11 et 12, bon, je ne sais pas si je peux dire c'est une question, parce que les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Et il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Bon, là, bon, je m'arrête là, hein. J'ai déjà entendu qu'on a dit qu'il y a une sœur qui disait que dans une autre église qu'on avait dit que Élie qui devait venir et qui est déjà venu, c'est Branham. Bon. Alors, je ne sais pas si je peux avoir de questions, de réponses, comme nous sommes avec des pasteurs, bon, je ne sais pas. Parce que c'est longtemps, hein, c'est écrit dans ma tête là, je n'ai pas encore eu la réponse. Élie là, c'est Abraham, ou bien c'est qui? Ou bien que le prophète Élie que nous connaissons dans la Bible. C'est ça ma question. Amen.
Oui, merci ma sœur pour la question. Laissez-moi ma sœur, avant de vous répondre, je vais lire. Et dans Parole vivante, on dit à partir du verset 11, ils lui dirent, pourquoi les interprétations de la loi disent-ils qu'avant l'arrivée du Messie, Élie doit d'abord venir? Certes, leur répondirent, Élie doit venir d'abord pour remettre toutes les choses en ordre. Mais comment se fait-il que d'abord l'écriture... Comment se fait-il d'abord que l'écriture, le fils de l'homme, doive beaucoup souffrir et être traité avec mépris? Eh bien, moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils lui ont fait subir tout ce qu'il voulait, comme l'Écriture l'avait annoncé à ce sujet. Ma soeur, moi, je peux dire que Branham, c'est wrong. Donc, moi, je sais qu'avant la venue de Jésus, il y a Jean-Baptiste qui était là pour préparer les chemins. Mais je crois que moi et vous, nous sommes d'accord que Jean-Baptiste a prêché la repentance pour que les gens viennent à Dieu. Mais nulle part on parle de Branham. Donc ce sont des choses, disons, que debout, qu'est-ce qu'on peut dire, que les gens racontent. Donc, oui, je vais donner la parole au pasteur Célé qui va dire un mot encore là.
Amen.
Donc, je voulais que nous prenions Jésus qui a parlé de cette histoire d'Élie en Matthieu 11. Matthieu 11, à partir du verset 12, jusqu'au 14.
Matthieu 11. Hein?
Matthieu chapitre 11, à partir du verset 12, il est dit ceci. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui les ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. C'est celui qui a des oreilles à entendre. Verset 15. Donc, le verset 13 et 14 donne en fait la réponse à la question de Maman Rose. Et c'est Jésus qui dit, si tu peux lire ça dans d'autres versions, tu verras, c'est lui qui devait venir, Matthieu 11, verset 12, 13, 14. Et la loi en prophétisait jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Le verset 14 précise bien, c'est pas Branham.
Merci, Pasteur Serré, pour les éclaircissements encore. Donc, c'est clair, Maman Rose, qu'Élie n'est pas Branham. Donc, Branham était. Donc, c'est du mensonge, Élie. Et Jean-Baptiste qui est venu pour préparer. Bien aimé, sur cette réponse, donc soyons dans les esprits clairs, le verset biblique nous dit que c'est Élie et nous croyons à cette parole. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons terminé ainsi notre méditation de ce soir. On n'a pas le temps de lire les commentaires. Chacun de nous a son lecteur. Il va lire seul les commentaires. Je voudrais donner le passage pour demain. Demain, nous allons méditer. Oui, un instant, j'ai perdu ma page un peu. Oui. Demain, nous serons dans Marc, toujours l'évangile selon Marc, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Et nous avons deux questions, question 2 et question 7. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci encore. Aujourd'hui, nous sommes nombreux dans sur ce plateau, fumée section Europe. Je vais donner la parole au pasteur Célestin qui a une annonce pour la journée de demain.
Oui, merci. Une grande majorité de l'équipe de l'Europe est là. Nous bénissons le Seigneur. Demain, à la même heure de la réunion, nous aurons l'intercession. Donc, il y a les membres du bureau FIMES qui vont se joindre à toute l'équipe de l'Europe pour l'intercession. Donc, c'est l'intercession basée sur le camp biblique. Nous savons que les jours s'approchent et nous avons besoin de voir tout le monde qui est là. Fournissons un effort pour que nous puissions nous voir. Je sais qu'il y a des contraintes, mais c'est un effort. C'est le sacrifice des fois que nous devons faire pour que nous puissions nous voir à Ferviers. Voilà, demain, 21h, l'heure de Belgique, à 20h, l'heure de l'Angleterre, et nous avons l'intercession et nous allons prier pour le camp. Et le Seigneur a besoin vraiment de notre intercession pour renverser tous les obstacles qui sont en train de se dresser sur le chemin pour ce camp où le Seigneur voudrait faire de grandes choses. Amen.
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 Merci, Pasteur Célé, pour les annonces. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier avec Papa José des États-Unis. J'aimerais lui donner la parole spécialement de remercier le Seigneur pour ceux qui viennent nous rejoindre. Papa José des États-Unis est paralysé. Aujourd'hui, ça se fera 12 ans. Et je crois aussi que vous connaissez que Papa José de Paris aussi est paralysé. Donc, les deux José sont paralysés. Mais spécialement aujourd'hui, nous allons prier pour les deux. Et je vais donner la parole à Papa José. C'est dans la joie et c'est douloureux. Et aussi, moi, personnellement, quand il a commencé à parler, j'ai senti vraiment la tristesse envahir mon cœur. Mais je sais que quand je sens comme ça, c'est que Dieu lui-même sans doublement parce que son fils remercie le Seigneur malgré cette situation douloureuse. Papa José, j'aimerais que vous priez ce soir pour terminer cette réunion. Amen.
Oui, Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes dans la joie parce que nous venons de partager ensemble ta parole. Ce que tu as gardé dans ce livre est très important pour nous. Tu as voulu nous montrer que notre Seigneur, bien qu'il fût homme, mais il était plus que homme. C'est pour cela il s'est transfiguré. Il était devenu une autre personne. Et c'est vrai. Malgré cette brillance, malgré cet éclat, il a voulu revenir avec ses disciples pour continuer l'œuvre afin d'arriver jusqu'au bout. Il doit passer par la souffrance. Il doit passer par la souffrance pour nous sauver, pour que nous, un autre jour, nous puissions arriver là où il est. Et nous serons comme lui. Nous ne serons pas de Jésus, mais nous serons avec lui, comme il a dit, là où je serai, vous serez aussi. Et c'est bien. Nous devons nous préparer maintenant. Donnez-nous, Seigneur, ce cœur qui accepte, ce cœur qui te connaisse réellement, que malgré les souffrances, les difficultés, nous devons tenir le coup pour aller jusque là où tu es. Ayez pitié de chacun de nous. Nous ne méritons pas cela. Nous ne sommes pas aussi forts, Seigneur. Aide-nous à aller avec toi jusqu'à chez toi. Béni sois-tu notre Seigneur. Nous te remettons ces camps pour que nous puissions rester avec toi autour de ta parole, comme Pierre, Jacques et Jean ont été avec toi là-bas sur la montagne. Et que, au lieu de rester à Verbier, que nous puissions rentrer chacun dans sa maison pour annoncer ce que le Seigneur a fait pour nous. Béni sois-tu notre Seigneur. Demain, nous serons ensemble dans la prière et nous te demandons, notre Seigneur, de nous aider pour que ce moment-là ne soit pas passé en vain, mais que ton nom soit glorifié. Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.
Amen. Amen. Merci, Pasteur José, pour la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu fasse quelque chose de nouveau dans notre vie, parce qu'il est notre Dieu et qu'il agisse, que nous ça, le voyons, nous voyons, vivons les éclats, la resplendissante de sa vie en nous, afin que la gloire puisse lui revenir à lui seul. Il me reste qu'à vous dire au revoir et merci parce qu'aujourd'hui, on est très nombreux sur ce plateau de fumesse, contrairement à d'autres vendredis. Que Dieu vous bénisse pour l'amour que vous avez pour notre Dieu, pour sa parole. Amen.
Amen. Amen. Amen. Sois béni.